Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission entrevue de Star Trek pour les nuls, le podcast. L'invité du jour s'appelle Jean-Michel Abrassard. Il est probablement la raison pour laquelle vous nous écoutez, mais pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, il est l'animateur du podcast Scepticisme Scientifique et de Club JDR. Et il est également bien sûr Trekker depuis de longues dates. Bonjour Jean-Michel, comment vas-tu ?
Je vais bien, je vais bien. Bonjour à tous les auditeurs.
Alors, auditrices, auditeurs, vous êtes toujours sur les ondes de puissance maximale. Je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls. Star Trek pour les nuls. Alors pour l'information, c'est la deuxième fois qu'on lance l'enregistrement parce que je suis un gros noob, je suis un gros nul. Je devrais monter un podcast qui s'appellerait Podcast pour les nuls. J'ai lancé un enregistrement sans qu'on entende la voix de Jean-Michel, donc c'est la deuxième fois qu'on fait cette conversation. Alors Jean-Michel, avant de revenir sur ton passé de Trekkie ou de Trekker, je sais pas comment tu préfères qu'on te considère, je te propose de te présenter un petit peu plus en profondeur. Je l'ai dit tout à l'heure que tu étais l'animateur de deux podcasts, mais est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton parcours de manière générale ?
Oui, ben voilà, j'ai créé le podcast Scepticisme Scientifique il y a 10 ans maintenant. Donc c'est un des premiers podcasts en francophone, hein. Certainement la première émission consacrée à la zététique qui existait. Donc là, c'est un podcast, comme je viens de le dire, consacré à la zététique, donc à la pensée critique. Et bon, actuellement, évidemment, il y a pas mal de chaînes YouTube qui ont proliféré sur le sujet, mais mon podcast prédate tout ça. Et moi, ça fait 10 ans que je le fais, et alors je pense dans les 7 ans que je fais mon podcast de live play de jeu de rôle qui s'appelle Club JDR et que tu as rejoint récemment, où on joue principalement à de l'Appel de Cthulhu. Et à The One Ring, qui est un jeu qui se passe dans le monde du Seigneur des Anneaux. Et autrement, mis à part ça, je suis un auteur, donc j'ai fait une thèse de doctorat sur le phénomène OVNI, la croyance dans le phénomène OVNI, et donc je me suis un peu spécialisé au cours des années sur le domaine de la parapsychologie ou de la psychologie anomalistique, donc l'étude du paranormal. Et j'ai quelques livres sur le sujet pour ceux que ça intéresse, donc 60 questions sur le paranormal, et les réponses qui apporte la science, et pour en finir avec le paranormal qui est sorti cette année. Et puis aussi, on vient de terminer un Ulule consacré, on a financé un livre pour enfants d'introduction à la zététique à partir de, on va dire, 5 ans. En tout cas, c'est écrit on est en train de le finaliser là, mais enfin, on le rédige pour qu'il soit vraiment écrit dans le langage le plus simple possible. Même si les idées qu'on y présente ne sont pas forcément extrêmement simples, on essaye de le présenter de manière extrêmement abordable. Et le livre s'appelle... donc c'est une collection. On espère que ça va devenir une collection, ce serait le premier volume. Et donc la collection s'intitulerait Zach et Zoé, zététicien en herbe. Et le premier volume s'appelle Enquête au Loch Ness. Et donc on y parle des observations du monstre du Loch Ness, des fantômes, de la paralysie du sommeil... des enlèvements par les extraterrestres, etc. Donc on a pris l'angle de parler des monstres, hein, des cryptides, pour introduire des notions d'esprit critique aux enfants.
Oui, et comme je le disais tout à l'heure, c'est le premier Ulule que je rejoins personnellement, alors que j'en ai vu passer des crowdfunding, et celui-là m'a un peu convaincu, parce que je suis moi-même papa depuis 3 ans et demi, et je sais pas, mon enfant commençait à me poser des questions un peu étranges, un peu qui lui font un peu peur sur les choses de la vie, sur les choses plus ou moins paranormales, notamment les fantômes. Et moi, ça m'a assez convaincu. Attention, par contre, si vous googlisez tout ça, c'est Zach et Zoé, pas Zach et Miri, parce que c'est pas du tout le même genre de registre sur lequel vous allez tomber. Excuse-moi, tu connais Zach et Miri ?
Non, ça ne me dit rien du tout.
C'est un film comique. Zach et Miri font du porno. C'est deux personnes qui essayent de s'en sortir et qui n'ont pas d'argent et qui se mettent à se lancer dans le porno pour dégager de l'argent. Donc, c'est pas du tout le même contexte. Et voilà, c'est là qu'on sent qu'on est bien sur les ondes de Star Trek pour les nuls, parce que de suite, je parle de cul. Excuse-moi.
Moi, je crois pour rester sur ton enfant qui a un peu peur, je pense que tous les enfants sont. C'est une des raisons pour laquelle on a choisi d'attaquer avec ce que j'appelle un des sujets classiques de la zététique, parler du paranormal. Tous les enfants sont un peu intrigués par ces créatures et qui se demandent qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Et je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour introduire à des notions de pensée critique. Ben, après, c'est vrai qu'on couvrira d'autres sujets. Une des choses qui m'a motivé à créer la collection, c'est de lire aussi des livres consacrés à la religion chrétienne pour les enfants. Donc, les chrétiens sont très motivés à écrire des livres pour les enfants qui présentent les idées de leur religion. Et les athées le font très peu, inversement. Et donc, c'est vrai qu'on fera certainement dans la collection ce que j'appelle de la contre-apologétique, donc parler de la religion dans une perspective critique. Mais voilà, moi je suis quand même un passionné du paranormal au départ, donc on a commencé par ce sujet-là, par parler du monstre du Loch Ness, parce que bon, le monstre du Loch Ness, c'est il n'y a pas beaucoup de gens qui y croient vraiment, donc c'est un peu safe d'aborder ça au départ.
Oui, c'est sûr, c'est plus pratique. Mais tu avais fait, il me semble, deux, peut-être trois épisodes sur des livres que tu avais conseillé pour lire aux enfants, justement, non? À propos du paranormal ou non?
Oui, tout à fait, oui, non, c'est clair. Sur Scepticisme Scientifique, si vous regardez, j'ai un épisode consacré à des livres pour enfants que je conseille, mais ceci dit, ce qu'on fait dans Zach et Zoé, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas en français. Hein. C'est vrai que, et même en anglais, il y a des choses qui, il y a des collections sceptiques qui existent, mais c'est vrai que même ce qu'ils font est souvent un angle d'attaque assez différent de celui qu'on a abordé. Oui, je pense qu'on est vraiment très, très original dans ce qu'on propose dans notre ouvrage, quoi. Le plus approchant qu'il y ait eu, c'est il y a une dizaine d'années, Henri Brock, celui qui a popularisé le terme de zététique en France, avait écrit un livre pour les enfants, mais je l'ai lu encore récemment, c'est plus à partir de 10 ans, préadolescent, donc nous on vise un public plus jeune.
Ok. Je te propose qu'on commence les questions autour de Star Trek, sauf si tu as des choses à rajouter.
Non, je pense que les gens doivent avoir une meilleure idée de qui je suis maintenant.
Oui, pardon.
Non, on va parler du fait que les Vulcains refusent d'accepter l'existence des voyages temporels.
Alors qu'ils l'utilisent. Il y a quand même quelque chose que j'ai oublié de te dire. Alors, c'est pour te brosser dans le sens du poil, là, tu vas voir. Et ça va aider également les auditeurs et les auditrices à savoir un peu qui je suis. Alors, bon, ça fait 6 mois, presque 8 qu'ils me connaissent. Mais il faut savoir que par-delà les montagnes hallucinées, donc l'ancien nom, le dead name de Club JDR, a été le premier podcast que j'ai écouté de toute ma vie. Et enchaîné, évidemment, parce que c'est la suite logique, par Scepticisme Scientifique. Donc, les deux premiers podcasts que j'ai suivis, c'est toi qui a été la voix dans mon oreille tous les matins et tous les soirs en allant et en revenant du travail, puis après en sortant mon chien. Bref, voilà. Donc, j'ai oublié de te le dire les deux, trois fois où on s'est parlé et je trouvais important.
C'est vrai que je crois qu'on était vraiment, enfin j'étais vraiment un des premiers en français. Hein. C'est vrai que forcément, moi j'écoutais en anglais une ou deux ans auparavant. Ça avait commencé les podcasts américains, donc les podcasts sceptiques, c'est Skeptics Guide to the Universe, des choses comme ça. Mais oui, forcément, je dirais le podcasting audio, enfin ce qu'on fait là, mon podcast, je l'ai commencé 2-3 ans après que ça a commencé en général, donc de facto je suis un des tout premiers, donc il y a pas mal de gens qui ont découvert le podcasting à travers moi et puis qui se sont dit je vais créer mon propre podcast et me faire de la concurrence à moi, c'est pas gentil, mais non. Il n'y a pas de problème, je suis content d'avoir déclenché plein de vocations.
Après, bon, ma découverte personnelle, c'était il y a seulement 4 ans, mais j'ai écouté toute la campagne de Par-delà les montagnes hallucinées, qui est passionnante et très, très. Enfin, c'est génial. Bref, écoutez Club JDR, c'est vachement cool. Auto-promo. Alors, j'ai encore une dernière chose à faire avant de partir sur les questions de Star Trek. Alors là, je suis désolé, Jean-Michel, ça ne te concerne pas trop. Encore que si, ça va me permettre de te poser une première question. On a reçu une question sur Twitter avec le hashtag Star Trek pour les nuls. Enfin, le arrobase Star Trek pour les nuls, mais le hashtag Noob Trek. C'est Choc235 qui nous demande à quand une émission Battle Star Trek versus The Orville? Alors, très cher Choc235, ça va être très compliqué parce que, comme tu as pu l'entendre dans les diverses émissions, on a des gros tenants pro The Orville et d'autres pro. Ça y est, j'ai oublié le nom. Pro
Discovery.
Discovery. Et je sais pas, enfin, je sais pas comment dire ça, mais j'ai bien peur que ça soit pas très très intéressant de faire un débat là-dessus. C'est vrai qu'on pourrait demander à JP et à Matou, en fait, c'est les gros tenants de Discovery et de The Orville du podcast, de se disputer autour du micro, mais je sais pas trop. Bon, déjà parce que The Orville, désolé, mais bon, c'est pas sous licence Star Trek, donc on va pas trop déconner, on va pas trop en parler. Et puis, je sais pas si c'est vraiment très intéressant de les mettre en opposition. Je pense qu'on pourrait les voir plus en complément l'un de l'autre. D'ailleurs, t'en penses quoi, Jean-Michel, toi, de ces deux séries?
Oh, moi je suis dans le camp Discovery, hein. Désolé les autres, mais. Non,
Merci.
j'allais faire une blague en disant que j'étais dans le camp de Black Mirror pour l'épisode spécial qu'ils avaient fait, mais
Alors, ouais, on en parlera, mais bon, je l'ai trouvé un peu insultant. Mais bon,
bon. Ouais,
enfin, ouais.
c'était juste pour dire qu'il y avait d'autres camps, mais. Ouais, non, réellement, je suis un Discovery. Hein.
C'est, oui, c'est vrai que entre Discovery et Yorville, moi je suis encore Black Mirror. C'est la fameuse phrase de la Suisse. Bon, ben voilà, j'espère, Choc, que ma réponse bottage en touche ne va pas trop te décevoir, mais bon, voilà, j'ai un peu peur des débats qui pourraient en suivre. Par contre, si tu
Tu fais
veux.
comme avec les débats religieux, hein, entre chrétiens et athées. Tu demandes à un des podcasteurs de faire une apologie de son donc l'un de Discovery. Il a 10 minutes pour prendre la défense et dire tout ce qu'il trouve bien avec Discovery. Et puis après, il t'enregistre 10 minutes avec l'autre en solo. Il se dispute pas en live, quoi. Et exactement comme on fait avec les débats religieux, parce que c'est pratiquement la même chose, non? Pour éviter qu'ils s'entretuent, quoi.
En sachant que quoi qu'il arrive à la fin, chacun va camper sa position. Et voilà.
Ça, c'est contre les débats religieux, de toute façon. C'est exactement la même chose.
Encore que, ben, je suis désolé, on est dans le hors-sujet total, mais bon, tant pis, on est freelance. Encore que je pense qu'il y a quand même plus de chances d'arriver à convaincre un non-tenant de devenir un tenant qu'un tenant de devenir non-tenant, quelle que soit la question, en fait. Non.
Oui, c'est vrai, si t'as pas
Pas trop
vraiment
d'accord.
d'opinion, hein, c'est clair que ça aide à convaincre quelqu'un. Dès que t'as une opinion, c'est foutu, en fait.
Tu crois?
C'est vrai que dès que t'as une opinion, ça devient. Bah oui, forcément. C'est les biais cognitifs jouent pour que ça te renforce ton opinion. Ouais. Alors, mais de toute façon, c'est juste que les gens ne changent pas d'avis. En fait, c'est parce qu'on a parfois l'impression que les gens devraient qu'on préfère changer d'avis les gens juste en claquant des doigts et qu'ils changent d'avis. Mais faire changer d'avis quelqu'un, ça prend du temps et des années, etc. C'est pas quelque chose qu'on fait très rapidement. Donc voilà, le tenant de Diorville doit plaider la cause Diorville pendant les 5 prochaines années sur le podcast pour essayer de nous convaincre qu'il a raison. Ouais.
Après, de toute façon, pour la défense des deux séries, on n'en est qu'à une saison. Je crois que Yorville a commencé sa deuxième saison, je sais plus. Mais on n'en est qu'à deux saisons, qu'à une
Ouais.
saison, pardon. Et franchement, si on me demandait de juger la série Next Generation, la série Deep Space Nine, la série Voyager, la série Enterprise sur la première saison, ça serait vraiment pas très très beau à voir. Donc voilà, je suis désolé, mais pour les anti-Discovery, C'est pas que le tenant de la page Star Trek Discovery France qui parle, mais calmez-vous s'il vous plaît, attendez et patientez.
Tu n'es pas du tout biaisé.
Non, voilà. Je... Tu sais, c'est comme non non, j'ai pas du tout un lobby dans le vaccin. C'est très bien le vaccin. Allez-y. Enfin, bah... Pardon. Allez, on va retourner sur le sujet quand même. Jean-Michel. Comment as-tu découvert Star Trek? Ça fait un peu pam. On passe du coq à l'âne.
Ok, bah écoute, ça fut à la grande époque, avant l'avènement d'Internet, quand on lisait encore du papier, non, je ne sais pas. dans les années, donc, c'était dans les années 80, je pense. J'étais un fan, oui.
Non, non, rien, vas-y, excuse-moi, ça me fait penser à une question que je te poserai plus tard.
D'accord. Quand j'étais adolescent, donc j'étais déjà un fan de science-fiction, et un jour, mon cinéma de quartier a décidé de jouer Star Trek Generations. Et dans la presse locale, on disait que Star Trek était un phénomène de société aux États-Unis pour les fans de science-fiction, même si en France c'était vraiment extrêmement, en Belgique je veux dire, extrêmement inconnu. Moi j'avais en tout cas jamais pu voir un épisode, mais bon, apparemment les épisodes de la série d'origine étaient passés à un moment donné avec un doublage assez foireux. En tout cas, la Star Trek n'était pas populaire à l'époque du tout. Enfin, n'était même pas que c'était pas populaire. C'était tellement difficile de voir des épisodes. Mais bref, je suis allé voir Generation et ça a été ma première fois que je découvrais Star Trek. Évidemment, c'est probablement pas la meilleure manière de rentrer dans Star Trek. C'était assez compliqué de comprendre ce qui se passait. Il y avait quelques éléments, style Whoopi Goldberg. Je me disais, tiens, c'est une actrice connue. Qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai quand même relativement bien accroché. Je peux pas, en tout cas, ça m'a pas dégoûté de Star Trek, même si j'ai compris ce que j'ai compris. Je me souviens que la première séquence ça commence par une séquence dans le holodeck avec un bateau pirate. Je comprenais absolument rien à ce qui m'arrivait. Quand t'as pas introduit aux idées de l'Odeck, etc., c'est tout tellement bizarre, c'est complètement surréaliste. Bah, de toute façon, bon, ça, c'est la question de comment faire rentrer les gens dans Star Trek, hein. C'est vaste. Enfin, c'est difficile de faire rentrer les gens dans comment introduire la série.
Vous écoutez Star Trek pour les nuls, vous avez compris que peut-être qu'il se pourrait que Star Trek Enterprise soit une bonne manière d'entrer dans la série, mais je n'en dirai pas plus. Je vous laisse écouter tous nos épisodes.
C'est vrai que Star Trek Enterprise, c'est pas mal pour ça. Et voilà, et donc à l'époque, il n'y avait pas moyen de trouver, même en cassette vidéo, encore c'était à l'époque des cassettes vidéo. Je ne sais pas dans quel ordre ça s'est produit, mais à un certain moment, j'ai trouvé des livres Star Trek qui étaient publiés en français. Bon, c'était assez massacre à la tronçonneuse. L'éditeur faisait ça. La traduction était plutôt foireuse et à mon avis, il sabrait sauvagement dans certaines parties du livre. Enfin, je suppose que vous avez certainement eu l'occasion de lire certaines des traductions d'ouvrages, de romans Star Trek en français. Mais c'est vrai que, mais enfin, je les ai lus et c'est pratiquement, finalement, ma découverte Star Trek, c'est peut-être probablement plus fait par les livres que par les séries au départ. Puis finalement, j'ai eu la chance après de voir First Contact, qui était nettement mieux que Generations. Et voilà. Après, évidemment, franchement, je suis devenu un fan de Star Trek en voyant First Contact, que j'avais trouvé prodigieusement génial. Là encore, on est complètement perdu au débat parce que j'ai vu First Contact sans savoir c'était quoi les Borg, etc. Mais bon, j'ai découvert les Borg en voyant le film. Mais enfin, l'idée des Borg est tellement prodigieuse que je peux considérer que j'ai commencé à m'identifier comme un fan de Star Trek à partir de First Contact.
Ah ouais.
Et en lisant. C'est rapide. Et en lisant les livres. Ouais.
Alors,
je sais pas.
Moi.
First Contact, c'est quand même super et génial, moi je trouve. Il y a plein, enfin les Borg, c'est quand même des méchants qui peuvent enflammer l'imagination des gens. Et quand on te présente un cube Borg, et puis il faut pas grand chose, je pense. Hein. Et puis la scène finale avec les Vulcains qui atterrissent. Ce qui est marrant, je crois que c'était la première fois que je voyais un Vulcain, puisque j'avais encore rien vu d'autre. J'avais vu Generations, mais je pense qu'il n'y avait pas de Spock dans Generations, donc j'avais même pas encore vu un Vulcain, c'est la première fois. Mais bon, j'ai vu mon premier Vulcain dans First Contact.
Ah putain,
mais même
un
l'idée
elfe.
Du. Ouais, un elfe, ouais, c'était. Je connaissais le Seigneur des Anneaux, ça m'a fort perturbé. Je me suis dit, c'est Legolas qui arrive.
Ah putain, non.
Mais ouais, voilà, ça a été. Mais je sais pas si les. Ouais, en tout cas, je ne sais pas, dans ta génération, si tu as eu plus facile à accéder. Enfin, tu dois être au moins 10 ans plus jeune que moi, donc forcément, ça a dû être plus facile pour toi.
Oui. Oui, pour moi, ben moi je suis rentré en 2009, hein, de toute façon, donc j'ai déjà dit plein de fois dans les
Ouais.
micros. C'est le film de J.J. Abrams, le reboot qui m'a lancé dans la série. Le coup des livres, par contre, c'est marrant parce que tu es la deuxième personne cette semaine qui me fait ce témoignage d'avoir plus découvert Star Trek via les livres que via les séries ou les films. Et ça, c'est énorme. Je trouve ça passionnant parce qu'aujourd'hui, vas-y pour trouver en français un livre de Star Trek. On ne les traduit plus. Les romans Fleuve Noir sont introuvables. Je suppose que c'était Fleuve Noir également en
Ouais,
Belgique.
bien sûr, ouais.
Oui.
Ouais. Au début, je me souviens que dans les tout premiers Fleuves Noirs, il y avait le titre, c'était La Caravane de l'espace au lieu d'être Star Trek. Enfin bon, c'était une époque formidable.
Eh
Mais en fait, c'est pas, je pense pas que ce soit bizarre. C'est juste parce que, en fait, vu le contexte dans lequel on était, c'était la seule manière. Et à l'inverse, les romans Fleuves Noirs, ils étaient disponibles au supermarché chez moi. Tu vois, et donc
D'accord.
j'étais adolescent et j'allais au supermarché avec ma famille faire des courses. Et puis hop, je me chopais un bouquin Star Trek. Et donc je me suis fait une fameuse collection comme ça que j'ai d'ailleurs toujours. Hein, je les ai pas achetés, j'en ai toujours plein. Et je continue à lire les romans. Je suis un aficionados des romans Star Trek. Ah, j'ai lu les deux. J'ai pas encore lu le troisième roman Discovery, mais j'ai déjà lu les deux premiers Discovery. Ils sont vraiment pas mal.
Ah, mais
Enfin, moi,
ça nous donnerait peut-être l'occasion d'en parler dans une autre émission, peut-être. On verra. Et les comic books, tu les lis un peu?
Oh, je pense que j'aurais de l'intérêt, mais je m'en suis pas procuré, donc. Non, je n'en lis pas pour le moment. Enfin, je n'en ai jamais lu. C'est vrai que faudrait que j'essaye une fois.
Oui, oui,
Mais
oui.
c'est vrai que, ouais, voilà, ils n'ont jamais été traduits, donc forcément, ouais, faut les faire. Ouais, faut que je les lise des États-Unis. En plus, en fait, c'est une bonne question parce que moi, je suis un super fan de comic books et j'ai lu plein de comics. Enfin, je suis un fan plutôt enfin, avant de Marvel, plutôt de DC maintenant. Mais donc, c'est vrai que malheureusement, comme tu dis, hein, ce problème de traduction. Enfin, maintenant, j'ai pas d'excuses parce que de toute façon, je l'achèterai en anglais. Il faut juste que je fasse l'effort. Mais pour être honnête, moi, ça a été l'effet un peu inverse. Tu sais, moi, j'étais un fan hardcore de Star Trek. Enfin, j'étais vraiment un Trekkie de chez Trekkie. Mais on a eu pour moi la grande traversée du désert, hein,
Oui.
parce que bon, les films de J.J. Abrams, moi c'est l'inverse, j'ai pas aimé, donc. Mais enfin, je détestais pas, mais enfin bon, je suis sûr que les gens ont déjà parlé des problèmes de ces films sur ce podcast, donc on va pas revenir là-dessus. Mais bon, donc on a eu une longue période où on n'avait plus rien, les 10 ans d'interruption comme ça depuis Enterprise. Donc c'est vrai qu'une fois qu'Enterprise s'est terminé, alors que la dernière saison d'Enterprise pour moi elle est prodigieusement géniale, je l'avais vraiment adoré. Bah, pour moi, Star Trek est un peu mort, hein, donc ça, j'ai un peu, voilà, pas décroché, mais bon, j'étais moins motivé pour aller lire les choses. Mais maintenant que Discovery est revenu directement, je me suis remis à, voilà, la première chose que j'ai fait, c'est aller acheter un des bouquins Star Trek sur mon Kindle pour pouvoir le lire, hein.
Et oui, après c'est on a retrouvé un peu ce comportement entre guillemets chez les fans de Doctor Who lorsqu'il y a eu le revival. Sur le coup, ils se sont dit oh non, enfin les fans historiques ont eu du mal à se relancer pour certains. Qu'est-ce que à l'époque en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a inspiré et qui t'a donné envie de continuer l'aventure trekkienne?
Bah, bon, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans Star Trek, mais c'est les idées philosophiques de Star Trek qui me plaisent bien, les lendemains qui chantent. Et maintenant, il y en a tellement que que c'est difficile de dire laquelle me plaît le plus. En tout cas, à l'heure actuelle, je dirais que quelque chose qui me parle beaucoup, mais c'est dû au fait, voilà, Discovery et puis les films, etc. Mais c'est vrai que le personnage de Spock et le fait que ce soit un métis entre deux cultures, parce que donc, pour les auditeurs qui ne savent pas, je suis marié à une japonaise et donc j'ai des enfants qui sont aussi métis. Et c'est vrai que le personnage de Spock, je pense que même à mon fils, je lui ai déjà introduit la série de dessins animés Star Trek, la vieille série. Et je pense que c'est un personnage qui peut parler à des gens qui sont dans cette position entre deux cultures, surtout que la culture vulcaine, je pense, a un petit côté japonais, donc ça peut vraiment fort lui parler. Mais en tant que sceptique, évidemment, aussi le personnage de Spock et puis d'autres personnages, hein, mais enfin bon, le personnage de Spock est quand même très emblématique. C'est évidemment une sorte d'archétype de la rationalité. Moi, je dis souvent, il y a deux grands personnages qui sont pour moi des symboles de la rationalité. C'est évidemment Sherlock Holmes d'un côté et Spock de l'autre. Bon, alors évidemment, il y a quand même un aspect critiquable, c'est-à-dire que dans les deux cas, on présente les gens qui seraient sceptiques ou rationnels, ou enfin qui essayeraient de l'être en tout cas, ou comme des gens dépourvus d'émotions. Alors qu'évidemment, bon, on peut, mais je veux dire, même Sherlock Holmes, on tend à le présenter comme ayant des problèmes sociaux, etc. Même si vous avez regardé la dernière adaptation de la BBC, voilà, il dit lui-même qu'il est un sociopathe, etc. Comme si le fait de penser rationnellement faisait qu'on serait incapable d'entrer en communication avec les autres êtres humains, ou qu'on n'aurait pas d'imagination, ou qu'on devrait comment dire, inhiber ses émotions. Donc, bon, malgré tout, c'est. Enfin, voilà, je veux dire, c'est deux. Bon, malgré tout, j'aime bien Sherlock Holmes et Spock. Ça. Spock, c'est pour la même raison, quoi. C'est quand même gay. Même si c'est des figures de la rationalité ou de la pensée critique, qui sont, par cet aspect un peu caricatural, qui sont critiquables pour ça. Mais malgré tout, je les aime bien quand même.
Encore que, c'est pas la première fois que j'entends cette comparaison, enfin cette analogie entre Spock et Sherlock Holmes. Mais je trouve quand même que Spock, même déjà dès la série originale, on a essayé de développer un peu son côté humain, son côté où quand Kirk et McCoy le taquinent en lui faisant comprendre qu'on peut être logique et très fort, mais à côté de ça, avoir quand même des émotions. Même s'il se bat contre ses émotions, il reste plus ou moins humain, entre guillemets. Et je trouvais ça intéressant de. Spock n'est pas unidimensionnel, contrairement à Sherlock Holmes. Bon, après, je connais pas énormément Sherlock Holmes non plus, mais.
Oui, et puis dans un des derniers films, Spock dit que la logique n'est que le n'est que n'est, n'est, n'est que le début de la sagesse ou quelque chose comme ça. J'ai plus la citation exacte en tête, mais où justement il met en avant la sagesse par rapport à la logique. Oui, finalement, je trouve ça, c'est vrai que c'est comme si Spock lui-même découvrait qu'il ne fallait pas, enfin, qu'il était lui-même auparavant une parodie de la rationalité, qui devenait quelqu'un de plus complet au fur et à mesure que les films avancent, finalement. Bon, c'est toujours aussi, est-ce qu'on nous présente le Spock en plein colinard, qui a complètement refoulé toutes ses émotions ou pas, mais au fur et à mesure des films, il devient un personnage. Mais t'as raison, donc c'est vrai que ça dépend de quel Spock on parle, de quel moment dans son parcours, etc. Et le fait que lui-même se débat avec cette notion, est-ce que je dois m'efforcer de plus refouler mes émotions ou pas, c'est assez intéressant.
À quel moment est-ce que tu considères être passé de noob à connaisseur, entre guillemets, partout? Les guillemets, à chaque mot.
Je sais pas, c'est quoi? C'est parce qu'il y a tellement à connaître dans Star Trek. C'est tellement vaste que, bon, je dirais que je suppose que je suis passé de noob à connaisseur quand j'ai fini de regarder toutes les séries de début jusqu'à la fin. C'est probablement ça que je dirais.
C'est toujours la question la plus compliquée, ça, dans les entrevues. Ouais. Je pense qu'elle est pas très bonne, mais bon, c'est toujours rigolo de voir. Mais après, bon, il y a quand même sûrement un moment où, à force, après avoir vu peut-être Next Generation et le début de DS9, tu t'es dit, allez, c'est bon, j'ai compris où on allait, quoi.
Mais c'est vrai que pendant très longtemps, au début, quand on ne connaît pas, c'est vrai qu'on. Surtout quand je lisais la période où je lisais surtout les romans, il y avait beaucoup de choses qui étaient évoquées qui n'avaient pas beaucoup de sens pour moi. Et c'est vrai qu'il y a un moment où, ouais, voilà, quand on a regardé la série d'origine et Next Gen, on comprend ce qui se passe. Hein. C'est vrai que toutes les notions sont en place. Mais c'est vrai que je me souviens encore de l'époque où je lisais les romans et où je me disais, c'est quoi ce machin? Je comprends pas ce qu'on me raconte. Mais bon, c'est vrai que. Mais bon, c'est vrai que la question est un peu bizarre parce que forcément, c'est un processus. Hein. C'est un continuum dans l'expertise. Est-ce que je suis un expert dans Star Trek? C'est ça, quoi. Il n'y a pas un moment où on peut dire. On est plus un. Ouais, enfin, non, justement, c'est vrai. Je suis plus un noob, mais bon, voilà, quoi.
Ouais. Allez, on change de question, on passe une fois de plus du coq à l'âne. Est-ce que, et si oui, en quoi Star Trek t'a influencé dans ta vie quotidienne?
Ah. Oui, bah, je pense. Oh non, mais je pense que justement, on a un peu commencé à couvrir le sujet avant, mais je veux dire, mon intérêt pour le scepticisme, c'était en partie à cause de justement du personnage de Spock, etc. Donc je pense, moi, ça m'a quand même pas mal influencé. C'est vrai que il y a quand même beaucoup de thèmes dans Star Trek qui ont trait à la zététique, hein. Par exemple le fait que les entités divines dans la série d'origine se révèlent toujours être des extraterrestres, etc. Donc cette idée que d'expliquer le surnaturel, la recherche scientifique, la recherche de connaissances, le fait qu'on peut connaître, enfin c'est ça. Donc de toute façon, c'est un des clichés, mais de dire que Star Trek a convaincu beaucoup de gens d'aller dans la recherche spatiale. Moi, ça ne m'a pas convaincu d'aller dans la recherche spatiale, mais parce que j'étais pas un super bon élève au secondaire, donc. Je rêvais pas, mes rêves de ce côté-là n'étaient pas si ambitieux que ça, mais. Non, et puis j'ai toujours eu plus d'affinité avec la philosophie et la psychologie, donc je suis allé là où je me débrouillais mieux, c'est vrai que je pense que. On dit parfois les sceptiques sont. C'est une critique qu'on peut dire quand on dit des sceptiques que ce seraient des scientistes, hein, des vils scientistes. Des gens qui croient dans la science, des choses comme ça. Mais finalement, Star Trek, c'est quand même une série qui vante les mérites de la science. Évidemment, je sais bien que c'est plein de techno blabla, etc. Hein, mais l'approche des personnages qui consiste à essayer d'expliquer leur environnement et les personnages, comme Spock, qui ont une approche très rationnelle de ce qui se passe. Ça m'a clairement influencé de ce côté-là. En fait, ce qui est marrant, c'est que les deux séries qui m'ont influencé, finalement, c'est Star Trek pour cet aspect-là, et puis X-Files, on a Fox Mulder, qui était un croyant du paranormal, et puis Dana Scully, qui est une sceptique, bon, quoique elle a des croyances religieuses, mais bon, c'était une autre manière. D'ailleurs, c'est en regardant X-Files, la première fois que j'ai entendu le mot sceptique, hein, donc je sais même pas ce que c'était. Enfin, oui, je connaissais le scepticisme philosophique, mais je veux dire sceptique au sens de la zététique. C'est en regardant X-Files que j'ai découvert ça. Donc, c'est deux séries qui ont finalement joué un rôle important dans la manière c'est toujours, est-ce que les gens à qui la série, j'étais certainement prédisposé à ça avant même, mais elles ont juste fait écho, hein. C'est-à-dire que ces séries parlent aux gens qui ont je suis en train de faire de la... Bon, moi je pense qu'il y a des gens qui c'est même pas juste je pense, mais bon, même avec les études en psychologie, il y a des gens qui ont plus tendance à croire dans le paranormal que d'autres, avec des traits de personnalité, etc. Et donc les gens qui sont zététiciens, c'est aussi parce qu'ils ont un certain nombre de traits de personnalité. Par exemple, ils sont très durs à hypnotiser, des choses comme ça. Donc tout ça est étudiable en psychologie. Bah donc je suppose que j'avais les bons traits de personnalité, mais une série aussi bien que X-Files avec Dana Scully d'un côté, ou une série comme Star Trek avec des personnages comme Spock, bah ça résonne chez les gens qui ont déjà une prédisposition à penser de cette façon-là, je crois.
Ok. Concernant Star Trek, ah si, non, j'ai oublié dans mes notes, et c'est une fois de plus, je prouve mon incompétence à gérer ce podcast. J'ai oublié une question, excuse-moi. Est-ce qu'à un moment donné, tu as intégré une communauté Star Trek, que ce soit une communauté physique, genre un club ou une communauté internet sur des forums, ce genre de choses? Pas du tout.
Non, c'est même pas vrai. Non, j'étais en train de réfléchir. Le problème, c'est que ça date. Tu me demandes de replonger très loin dans ma mémoire. Il y a très très longtemps. Donc encore une fois, quand j'avais la vingtaine, il y avait une sorte de fanzine. Il fallait écrire. C'était une sorte de jeu de rôle par fanzine. On devait créer un personnage et intervenir dans le récit. Et puis on recevait le fanzine avec donc le fanzine était un vaisseau spatial et donc j'avais créé un personnage, je l'avais envoyé, ça avait été publié dans un numéro. Bon, j'ai pas beaucoup contribué, je crois que j'ai fait qu'un numéro, je crois. Mais c'est vrai que j'aimais bien ce principe de c'était une sorte de fanfiction où tous les personnages interagissaient avec les uns avec les autres et ça a été probablement ma plus grosse tentative de rejoindre une communauté stricto sensu. Bah, encore une fois, parce que voilà, je veux dire, moi j'étais fan de Star Trek avant vraiment l'avènement d'Internet, etc., ou en tout cas au tout début, donc c'était beaucoup plus dur à l'époque. Sinon, je l'aurais clairement fait. C'est vrai que maintenant, à l'heure actuelle, c'est tellement facile d'aller sur un forum ou des choses comme ça. Par contre, ce que j'ai fait, c'est évidemment, par exemple, j'allais au Festival du film fantastique à Bruxelles et il y a eu. Il y a eu William Riker qui est venu pour présenter. Enfin, évidemment, c'est l'acteur qui est venu, mais c'est Riker.
C'est très simple.
Même dans la vraie.
Voilà.
Quoi?
Pour différencier Riker de ah pétard, j'ai perdu son nom, de l'acteur, c'est très simple. Tu regardes comment il s'assoit sur une chaise, s'il enjambe la chaise avant ça. S'il enjambe la chaise, c'est que c'est Riker. Si ça se fait normalement, c'est que c'est l'acteur.
Ah là là. Mais ouais, il était venu parce que c'était lui le metteur en scène d'un des films ultérieurs. C'était lequel c'était le dernier de. Ah non, l'avant-dernier. Ceux-là, ils n'étaient pas tellement bons. Mais bref, il était venu présenter. Ouais. Et donc. Il était venu présenter. Donc, c'est vrai que quand j'avais l'occasion d'aller à une. Ah oui, Jonathan Frakes, évidemment, maintenant le nom est revenu. Si j'avais l'occasion de rencontrer des acteurs de Star Trek, comme là, je le faisais, hein, c'est vrai que c'était marrant parce que avant de le voir au Festival du film de Bruxelles, je me rendais pas compte à quel point il était grand. Enfin, maintenant, quand je regarde la série, je me dis, c'est vrai qu'il est grand. Mais quand tu le vois en vrai, tu te dis, oui, c'est vrai qu'en fait, il est grand quand même.
C'est,
par rapport
il
à
est
moi.
Immense. Ouais.
Mais ouais, ben voilà, quand on est jeune et qu'on regarde juste la série, on se rend pas compte. Mais une fois qu'on est à côté de lui et qu'il fait deux têtes de plus que toi, tu te dis bon. Je comprends pourquoi il passe au-dessus de la chaise.
ça c'est. Ouais, Jonathan Frakes. Alors attends, juste parce que t'as dit que c'était pas très bon. Bon, c'est lui, il fait partie de l'équipe de direction de First Contact et de mon film favori qui est Insurrection. Et pour la petite info, on en a parlé plusieurs fois, mais Jonathan Frakes sera présent au TGS, au Toulouse Game Show. Et bon, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais il se pourrait que certaines personnes que vous entendez régulièrement dans les micros de Star Trek pour les nuls aillent lui poser quelques questions plus ou moins intimes.
Wow.
Donc voilà.
Ah oui, c'est vrai que j'avais vu sur Twitter que t'aimais bien Insurrection, j'avais été en état de choc, mais c'est pas grave.
Ouais, je fais partie des rares, mais ouais, il est hyper très clean ce film. Enfin bon. Mais bon, nous n'en sommes pas encore là, donc on en parlera dans quelques semaines, quelques mois, je pense. Il y a un truc sur lequel je tiens à rebondir, c'est cette histoire de fanzine. C'est énorme. À chaque émission, j'ai l'impression de découvrir des trucs. Parce que concrètement, aujourd'hui, il se passe pas grand-chose dans la communauté fan de Star Trek. On a un énorme mouvement avec le Star Trek French Club là qui essaye de regrouper toute la francophonie autour de Star Trek, que ce soit la Belgique, la Suisse, les Canadiens ou la France. Mais c'est à peu près tout. Et en fait, quand j'entends ce genre d'histoire, tu m'as dit, il y a une fanzine qui proposait des maquettes de vaisseaux spatiaux, c'est ça?
Donc c'était une sorte de jeu de rôle par écrit, hein. Donc on jouait à un vaisseau spatial et le nom du fanzine, ça remonte à au moins ça, donc je serais incapable de m'en souvenir du titre, mais c'était le nom du vaisseau. Et puis en fait, l'éditeur était le capitaine du vaisseau, et puis en fait, on écrivait, on contribuait des textes qui étaient publiés, et ils essayaient de maintenir de la cohérence entre ces différents textes pour qu'on ait une narration. Et normalement, tu vois, tu lisais le numéro précédent, donc tu savais ce qui s'était passé dans la timeline du vaisseau, et donc à chaque fois, et donc t'écrivais, c'était une sorte de... Si, en gros, ça sera finalement, c'est vrai que c'était pas mal comme idée, mais ça se rapprochait du jeu de rôle textuel, mais
Oui.
donc par email, mais à l'époque c'était via fanzine. Évidemment, le processus était lent et douloureux, quoi. Je t'imagine, je suppose qu'ils faisaient un numéro tous les 3 mois au mieux, mais c'était quand même sympa. Et puis il y avait des illustrations et tout, donc ça donnait pas mal en termes de fanzine, c'était gai, quoi. Ouais, moi j'y ai pas beaucoup contribué, mais c'est vrai que ça existait à l'époque.
Je trouve ça génial. Ça me rappelle un peu, oui, comme tu disais, par rapport au jeu de rôle textuel, ça me rappelle le Star Trek Québec, qui était un JDR par mail dont nous avait parlé JP. Et voilà.
Mais au niveau de la communauté maintenant, de fans, je pense que y a moins de choses qui se font aussi. Enfin, c'est la force et le défaut d'Internet, hein, en fait, c'est tellement facile d'être un fan via Internet et de, voilà, je like la page et puis je clique quand il y a une news qui dit, je retweet sur Twitter. Mais alors, oui, je pense qu'il y a aussi un effet comme ça. Hein. Je le vois dans d'autres domaines. Hein. C'est vrai que, voilà. Enfin, ça n'a rien à voir, mais un des trucs flagrants, c'est les associations d'études des ovnis. Avant, il y en avait plein partout dans toute la France et en Belgique, etc. Parce que les gens devaient se réunir, discuter des cas, essayer de les expliquer, etc. Et maintenant, il n'y a pratiquement plus rien, quoi. Des ufologues de terrain, il n'y en a plus, hein. Enfin, il y a moi et quelques personnes, enfin, voilà, dans le nord-est de la France, les derniers Gaulois résistants. Ils sont pas dans la bonne région, de toute façon, mais ce qui est, parce qu'en fait, c'est tellement, voilà, si t'es fan de paranormal, t'es fan d'une page consacrée au paranormal, ou t'es abonné à une chaîne YouTube qui te présente des vidéos complètement foireuses de fantômes, et puis, enfin, voilà, en fait, c'est tellement facile d'être un fan via Internet, mais ça limite, enfin, je veux dire, ça tend à tuer, tout ce qui était fanzine papier et tous les trucs communautaires qui existaient autrement, hein, ça c'est sûr. Hein. Je suis pas étonné de ce que tu me dis pour la communauté de Star Trek, c'est la même chose, quoi.
Oui, après, bon, j'ai toujours espoir que ça revienne. Juste, comment ça, les débunkers ne sont pas dans la bonne région? Tu veux dire que les extraterrestres n'envahissent jamais le nord-est de la France?
Non, ce que
Je ne
je
comprends pas.
C'était une référence aux irréductibles gaulois.
Ah
Ils
oui,
sont pas
d'accord.
allés à l'ouest pour ça.
Ah, je croyais que tu étais en train de nous dire qu'il y avait plus d'observations d'ovnis en Belgique et en
Non.
Bretagne qu'en Alsace, par exemple. Et que c'était très étrange que les extraterrestres ne s'approchent pas de Marseille. N'importe quoi.
De toute façon, s'il y a un vaisseau spatial qui vole, une soucoupe volante qui vole, on sait bien que c'est l'Enterprise avec un voyage temporel, ils ont encore fait.
Surtout la fameuse histoire des soucoupes.
Ouais, c'est clair.
Mais oui, de toute façon, faut pas s'inquiéter. Oui, voilà, si vous observez une soucoupe dans le ciel, c'est forcément l'Enterprise qui a fait un voyage temporel pour nous aider, pour notre bien.
Et si vous êtes kidnappé, c'est juste un.
Ah, c'est trop
C'est
cool,
juste McCoy qui vous appelle.
profitez-en.
Vous avez juste été téléporté à propos du vaisseau.
Voilà. sauf si c'est l'univers miroir d'ailleurs, mais enfin bon.
J'allais faire une base, une blague à base de probanal et d'hydrospray, mais je ne sais pas.
C'est très technique là pour le coup. Je rappelle le concept de l'émission Star Trek pour les nuls, hein. Pas... faut pas trop pousser. Ben je pense qu'on a fait le tour. Sauf si tu as des choses à rajouter peut-être sur Star Trek et toi.
Non, je suis très content de venir discuter avec vous. En tout cas, c'est je trouve ça bien que justement voilà un podcast consacré à Star Trek, parce que moi j'en écoute pas mal en anglais hein, aussi enfin donc je te l'ai dit c'était mon préféré pour le moment c'est Rachel watches Star Trek.
Oui. C'est vraiment terrible. Rachel regarde Star Trek. Elle a fait sa première convention là cette semaine justement. Et alors ça c'est toi qui me l'as fait découvrir et c'est vrai que c'est très intéressant. Si vous êtes anglophone, je vous invite vraiment à écouter. C'est très drôle. C'est pas le même angle d'attaque du tout que Star Trek pour les nuls. Et oui, comme tu disais, c'est très facilement écoutable parce que ce sont des émissions assez courtes. Je crois que ça fait maximum une demi-heure par là.
Ouais, ouais toujours 20 minutes.
Et,
même.
Très très sympa. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
Et aussi, j'écoute Literary Treks, qui est un podcast uniquement consacré au roman Star Trek. C'est assez sympa, surtout qu'il y a tellement de romans, ça permet de découvrir tous les romans qu'on ne pourra pas lire, parce qu'il y en a trop. Et ils couvrent aussi les comics. J'aime assez bien ces deux podcasts-là consacrés à Star Trek. Donc, c'est sympa qu'il y a quelque chose en français maintenant, pour les fans francophones. Mais en tout cas aussi, je pense que ouais, je suis assez intéressé de tester Star Trek Adventures là pour le podcast Club JDR. Oui. C'est vrai que ça fait un moment et en plus le plus marrant c'est que mes joueurs me le réclament parce que j'ai plusieurs fans de Star Trek dans le groupe. J'ai tenté leur kit d'initiation mais j'ai pas été convaincu par le scénario que je trouvais assez c'est banal, mais bon, je sais bien quel est le bémol, hein. C'est-à-dire que le kit d'initiation s'adresse pas à moi, c'est-à-dire ça s'adresse à des gens qui savent peut-être pas comment faire du jeu de rôle, etc.
Exactement.
Donc, quelque chose de très basique. Mais donc moi, ça m'a pas parlé. Donc, je pense que maintenant ils vont sortir une boîte d'initiation. Donc, à mon avis, avec trois scénarios dedans, un truc comme ça, ils ont annoncé. En tout cas, s'ils sortent un truc comme de style là. Je m'engage à l'acheter et à le faire jouer, à le diffuser sur Club JDR.
Voilà, mais j'allais en parler en fait pour clôturer l'émission. C'est vrai que moi j'ai le bouquin à la maison et c'est vrai que oui, même en ligne, si ça te dit, on pourrait faire une partie une fois au moins pour tester. Mais c'est vrai que c'est un gros défaut même de bon alors de le scénario qui est présent dans le livre, je l'ai pas encore lu. C'est vrai que j'avais lu celui du kit d'initiation, mais voilà, c'est celui d'un kit d'initiation, donc c'est forcément le but d'être simpliste, entre guillemets. Mais le livre, de manière générale, c'est très, très axé sur la découverte du JDR, et c'est très, très compliqué, donc peut-être que ça sera plus intéressant avec les suppléments qui sortiront, en effet. On va voir. D'ailleurs, en français, ouais, ils sont en train de traduire le premier supplément qui est sorti, donc il devrait quand même sortir avant fin 2019, j'espère.
Ouais. Je pense que c'est pas mal qu'ils ont comme approche de se dire on va plutôt que de s'adresser vraiment juste à l'intersection, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois des rôlistes et des fans de Star Trek, ils essayent de faire un produit qui soit accessible à des fans de Star Trek qui découvriraient le jeu de rôle par là. Je trouve ça pas mal, hein. Maintenant, enfin bon, le scénario qui était dans le kit d'initiation, sans spoiler, ce qui me gênait, c'était pas ça, ce qui me gênait, c'est quand même ce que j'ai dit, c'est que c'était trop simpliste, mais trop simpliste au point qu'en fait, il ne donne pas des explications sur des éléments cruciaux, donc, bon, il y a des choses extraterrestres qui se passent, enfin, forcément, on est dans Star Trek, mais en gros, c'est, le meneur de jeu n'a pas les réponses sur les questions posées par le scénario. Alors bon, évidemment, je peux sucer de mon pouce des réponses, hein, mais c'est pas très. Enfin, j'aime pas quand les scénarios sont écrits comme ça. Je pense qu'au contraire, ils auraient dû donner des éléments de réponse qui seraient mind blowing et qui me donneraient super fort envie de jouer le scénario, plutôt que de me dire ouais, on vous donne pas les réponses au scénario, mais vous pouvez les inventer vous-même. Ouais, non.
Mais ça,
J'attendrai
c'est
que vous
le.
écriviez un autre scénario.
Voilà. Mais ça, c'est le gros problème du. Alors, je vais partir sur des mots un peu plus techniques pour les auditeurs et auditrices. Vous allez peut-être être perdus. C'est le gros problème du JDR traditionnel. Dans la première page de ce bouquin, il y a marqué « Nous allons vous présenter les règles, mais n'oubliez pas que vous pouvez faire ce que vous voulez parce que c'est du JDR. » Et ça m'agace un peu parce que c'est pénible. Tu crées une histoire ou tu crées des règles, c'est pour que les gens les suivent ou pas. Enfin, c'est bon, t'as pas besoin de nous rappeler que ben on fait ce qu'on veut, oui. Et ça m'agace un peu.
Ouais, mais sinon, par contre, j'avais à l'époque quand j'ai lu le scénario, j'ai lu les règles et je trouvais que les règles qu'ils proposent sont assez sympas.
Les
en tout
règles
cas,
sont très bonnes.
Ouais, en lisant les règles, je les ai pas testées évidemment, je les ai pas jouées, mais je les ai lues de manière à me dire bon comment ça fonctionne. Enfin, je les ai voilà comme si j'allais jouer le scénario, le maîtriser. Et c'est vrai que je me suis dit les règles sont sympas et elles sont vraiment très efficaces pour recréer une ambiance Star Trek. Y compris pour des gens qui connaissent peut-être pas si bien Star Trek, si on a bon c'est mieux d'avoir 2-3 Trekkies dans le groupe, mais si on a un ou deux qui connaissent pas bien Star Trek, bah les règles les aident quand même à facilement interpréter leur personnage, etc. Donc je pense qu'ils ont fait quand même du bon boulot quoi, mais il faut faites un kit d'initiation, ah non pas un kit d'initiation mais un truc de promotion gratuit à télécharger, mettez un scénario qui déwan dedans quoi, c'est pour moi c'est un peu la règle.
Ben écoute, je pense qu'on va en finir sur ces sages paroles. Auditrice, auditeur, n'oubliez pas, Jean-Michel Abrassard, c'est donc les podcasts Scepticisme Scientifique et Club JDR, mais également les livres pour en finir avec le paranormal. Soit cette question sur le paranormal et les réponses qui apporte la science. Ça va, t'as pas des problèmes
Parfait.
Pour choisir tes titres? Zach Ezo et Zététicien en Herbe. Les précommandes sont encore disponibles sur Ulule?
Ah non, le Ulule
fini.
Est terminé. Mais bon, probablement qu'on.
Il y a une page Facebook, il y a une page Twitter. Restez à l'affût.
Ouais.
Ça m'a l'air très, très, très intéressant. Et donc, voilà. N'hésitez pas.
Au cas où tu le saurais pas, c'est évidemment jamais moi qui choisis les titres pour les livres. Hein, mais bon.
Oui,
tu penses
parlé.
Bien.
Personne
comme, comme tous les auteurs. Quand tu es dit chez un éditeur professionnel, tu peux te sucrer pour essayer d'imposer ton titre. Ça ne fonctionnera jamais. Ah là là. Mais ouais, pour Lulule, par contre, forcément, on espère faire un volume 2. Donc, une fois que le premier sera expédié, que les gens l'auront dans la main. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, bah, suivez notre coup de compte Twitter, hein, Zététicien en Herbe, c'est le plus facile pour rester informé. Et on démarrera probablement la suite, le volume 2 courant. Bon, je sais pas, il faut peut-être trop optimiste, mais moi j'espère avril 2019.
D'accord.
Et donc à ce moment-là, vous pourrez probablement vous reprocurer le premier volume si vous voulez l'avoir en physique. En PDF, à mon avis, on le rendra disponible via Amazon sans problème. Hein, mais c'est pour avoir des versions physiques, ça, il faut participer au Ulule.
Okay.
Voilà.
Ok. Eh bien, très chères auditrices, très chers auditeurs, n'hésitez pas à réagir sur tout ce qui a été dit dans cette émission. Vous avez pour cela sur Twitter le...
Mort Orville.
Oui, oui, si vous voulez. Bon, écoute, on n'est pas du tout biaisé chez Star Trek pour les nuls. Vous avez le hashtag NoobTrek, le hashtag NulTrek. D'ailleurs, si vous vous souvenez le titre du fanzine dont on a parlé plusieurs fois, faites-nous signe. Donc, comme je disais, Twitter, vous avez Facebook, patati patata, vous le savez. Faites-nous signe, vous êtes les bienvenus, vous faites autant partie de cette émission que Jean-Michel et moi et que tous les autres... intervenant de ce podcast. Jean-Michel, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, parce qu'il est tard.
Ouais, je voulais quand même juste dire que je fais des
oui.
blagues sur le Orville, mais que je ne déteste pas réellement le Orville. Je partage ta opinion, on peut pas se plaindre d'avoir trop de bonne science-fiction, et donc j'aime bien le Orville. Juste que ça me fait rire. De toute façon, franchement, allez, Moi, je suis fan de The Expanse, donc.
Voilà, allez regarder The Expanse. The Expanse, comme je le disais, moi, franchement, ça pourrait être Discovery 100 ou 200 ans plus tôt, je trouve.
Ouais, c'est clair, c'est clair.
Allez regarder aussi la fameuse série dont nous avait parlé Sean de Trek on the Tube. J'ai oublié le truc Westworld.
Ah, Westworld, ouais, c'est terrible.
Et d'ailleurs, si vous êtes fan de un peu de on parlait de Cthulhu tout à l'heure, si vous êtes fan, allez regarder The Aurore, c'est une série géniale sur les années, sur les vaisseaux anglais qui se baladent dans la banquise et qui se font attaquer par des monstres. C'est passionnant. Je sais pas si tu connais.
Ah non, ça ne me dit rien.
C'est sur, alors c'est une série Amazon, donc je l'ai sur Amazon Prime. Bon, voilà. Et c'est une super série sur deux vaisseaux anglais, là, des années 1800 et quelques. Je suis très mauvais en histoire, donc j'y connais rien. Et j'invite tout le monde à regarder cette série qui est proprement géniale. Voilà.
Cool.
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une vie longue et prospère, pour reprendre la phrase habituelle de Star Trek pour les nuls. À très bientôt, bonne soirée et à bientôt. Je l'ai déjà dit. Chauffez les moteurs. Préparez la distorsion. Chargez les déflecteurs. Star Trek. Pour les nuls. En avant.